Eh bien, comme chaque mercredi à 17h30, nous vous présentons le magazine USTL Info, magazine sur l'Université de Lille. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « La formation continue de l'Université de Lille » avec Martine Carat, qui est directrice du Sud-Est, donc Service universitaire de développement économique et social. Bonjour Madame Carat.
Bonjour.
Bienvenue donc à Radio Campus. Donc je suppose que la formation continue, ça représente quelque chose d'important sur une université comme Lille.
Alors l'Université de Lille est la première université de France en matière de formation continue. Elle accueille chaque année environ 13 000 personnes dans des cycles de formation de l'université ou dans les labos de l'université. Et elle a aussi une très grosse activité en matière de validation des acquis professionnels et de validation des acquis de l'expérience. Si on totalise les deux validations, on arrive à 1500 personnes qui bénéficient de ce type de dispositif à l'université.
Alors pourquoi l'Université de Lille a hérité de cette importante mission? Parce que si d'autres universités ne l'ont pas été, pourquoi elle a été mandatée pour autant de tâches?
Alors tout d'abord, la formation continue, c'est dans les missions de l'université, au même titre que la formation initiale. Si dans cette université, les choses ont pris une telle ampleur, ça tient aussi à notre passé économique et notamment à la mise en place, enfin à la création d'un institut qui s'appelle le QEP, qui a contribué à la reconversion des houillères et du textile avec des actions comme d'exister en Lorraine pour aider les personnels de ces industries qui disparaissaient à se reconvertir vers d'autres activités plus porteuses d'emploi. Et donc la formation continue à l'Université de Lille date des années 68, donc y compris avant les lois sur la formation professionnelle.
Il y avait déjà des interventions de l'Europe pour aider à ce recyclage?
Non, à cette époque-là, non.
C'est après le FEDER qui s'est installé.
Voilà. Depuis, il y a des fonds européens qui aident aussi, mais la majorité des fonds ne vient pas de l'Europe. C'est une toute petite partie de l'activité actuelle.
Au niveau national, c'est l'éducation nationale qui a la mission de la formation continue?
Non, dans la loi qui régit les universités, c'est une des missions comme la recherche, comme la formation initiale, comme la valorisation scientifique et technique. C'est une des missions à part entière et qui existe depuis dans les lois successives, ça figure dans le code de l'éducation en tant que tel. Alors après, chaque université est libre de s'organiser comme elle le souhaite et de mettre en œuvre ou de ne pas mettre en œuvre. Bon, dans cette université, la formation continue, compte tenu de l'importance économique d'accompagner les mutations économiques de cette région, a été particulièrement intensive et intense et a toujours fait partie des préoccupations importantes de l'université.
Est-ce qu'il y a d'autres acteurs que l'université pour faire la formation continue dans notre région?
Ah oui, l'éducation nationale est un très gros partenaire avec le réseau des GRETA, pour tout ce qui concerne l'enseignement secondaire. Après, vous avez de très gros partenaires du ministère de l'Emploi, par exemple, avec son opérateur qui est l'AFPA, l'Association pour la formation professionnelle des adultes. Vous avez les chambres de commerce, vous avez tout un tas d'organismes associatifs, et puis vous avez des organismes privés, des consultants privé ou des gens qui s'installent pour faire du business. Voilà.
Donc c'est, j'allais dire, il y a une situation de concurrence ou pas?
Ah, tout à fait. Nous sommes entièrement sur un marché concurrentiel. Alors, un marché concurrentiel, oui et non, en ce qui concerne l'enseignement supérieur, puisque notre volonté ici a toujours été de développer l'accès des adultes dans les diplômes de l'université. Or, en matière de diplômes de l'enseignement supérieur, hormis des écoles et les autres universités, mais des choses sont à peu près organisées, la concurrence n'existe pas, puisqu'on a quand même le quasi-monopole de l'attribution des diplômes. De la même manière, quand on ouvre de laboratoires de recherche pour que les gens aient accès aux nouvelles technologies, aux dernières technologies, aux dernières méthodes d'analyse, là aussi, je veux dire, le potentiel scientifique et technique qui se retrouve dans cette université ne se retrouve pas dans un organisme de formation lambda. Donc on est quand même sur un créneau particulier.
Alors, Est-ce que vous visez aussi de la formation interne des personnels de l'université? Je pense par exemple actuellement, il y a des nouveaux logiciels qui se mettent en place dans les services, etc. Est-ce que vous contribuez à cette formation?
Bien sûr. Dans les formations qui sont proposées au personnel de l'université de Lille, une partie est réalisée en interne par notre université. Alors, dans ce qui concerne les stages informatiques, ce type de choses, c'est réalisé par le QEP notamment, qui a une réelle compétence dans le domaine. Le CIDES, lui, s'occupant plutôt de la partie post-baccalauréat et des diplômes de l'université.
Donc, le QEP, avant, il était rue Angelier.
Il est toujours rue Angelier.
D'accord. Comment ça se fonctionne, le partenariat vu d'ici à Villeneuve-d'Ascq, cité scientifique, et Angelier qui est à Lille-Centre?
Bon, je dirais que le rôle du CIDES, il est double. Il est de coordonner l'ensemble de l'activité formation continue de l'université. Mm-hmm. Alors, la formation continue, il y a deux composantes qui, historiquement, on en parlait tout à l'heure, à la mise en œuvre de la formation continue dans l'université, c'est le QEP que tous les étudiants connaissent à cause des langues en général, et que les personnels connaissent bien, qui a une mission essentiellement de monter en qualification des bas niveaux et a des compétences importantes en matière de lutte contre l'illettrisme dans les entreprises, qui a aussi des compétences importantes en matière d'ingénierie et d'accompagnement des entreprises, et qui a toute la filière sciences de l'éducation. Hein, bon, et puis d'autres petites actions. À côté de ça, il y a aussi l'IAE qui, historiquement, a démarré en même temps que le QEP pour là accompagner les cadres textiles dans la reconversion, par des diplômes en gestion à ce moment-là. Et donc l'IAE a encore une activité très très forte en formation continue. Et il y a le Sud-Est qui s'est créé plus récemment pour coordonner l'ensemble de cette activité et prendre en charge l'activité des autres composantes de l'université, donc de l'IUT, de l'école polytechnique et des UFR, sciences économiques, mathématiques, biologie. Et toutes les autres. Quoi.
D'accord. Voilà. Donc je suppose qu'il y a des plans de formation, que ces plans de formation, ils sont préparés longtemps à l'avance, hein, et qu'on peut demander à en faire partie, en bénéficier.
Bien sûr. La grosse activité du Sud-Est, c'est le conseil et l'accompagnement des personnes qui souhaitent évoluer dans leur carrière professionnelle, qui souhaitent se reconvertir. Donc chaque année, c'est plusieurs milliers de personnes qui sont accueillies, les personnels de l'université comme les autres. Et on essaye d'élaborer des itinéraires individualisés de formation et de leur donner toutes les conditions pour qu'ils réussissent à l'université, qu'ils viennent pour quelques heures ou qu'ils viennent pour faire un diplôme complet d'un millier d'heures. Donc tous les dispositifs légaux et toutes les informations légales sur les possibilités qui sont offertes à tous par la loi sont données à ce niveau-là.
Non, les gens qui souhaitent bénéficier de formation continue, c'est pour approfondir leurs connaissances dans leur domaine ou pour changer de direction?
Alors, ici, on a une très forte activité de montée, ce qu'on appelle promotion sociale. C'est-à-dire que des gens qui ont arrêté leurs études un peu prématurément dans les années 70, 80, peuvent revenir à l'université. Bon, on a énormément de gens qui ont été formés, par exemple, au niveau DUT, dans ces années-là, dans les années 80, qui, après une période d'expérience professionnelle, ne voient plus de possibilité d'évolution au sein de l'entreprise, reviennent à l'université pour obtenir un master et bénéficier d'une validation d'acquis d'expérience ou d'une validation d'acquis professionnel pour que les parcours soient raccourcis. Ils bénéficient d'un emploi du temps aménagé, de cours spécifiques dans certains endroits, avec une pédagogie qui est particulière et adaptée à ce public. Ça, c'est la grosse activité de la maison. La montée en qualification et la...
Alors, ça peut permettre, par exemple, de passer d'une catégorie B à une catégorie A?
Alors, le problème de la fonction publique est un peu particulier. On accompagne des gens à obtenir des diplômes, et il y en a dans cette université. Mais vous savez très bien que les promotions sont souvent liées au concours ou à l'inscription sur une liste d'aptitudes et être en tête de cette liste d'aptitudes. Alors, c'est toujours un plus dans un dossier, hein, mais ça ne constitue pas un sésame aussi automatique que dans le privé.
Donc les gens qui viennent peuvent avoir des motivations très différentes et des parcours professionnels très différents, aussi des conditions de vie d'une manière générale, très différent. Oui. Et ça peut concerner aussi bien des personnes peut-être qui sont licenciées, qui cherchent à se resituer autrement professionnellement, que des dames qui ont peut-être arrêté de travailler, qui ont élevé des enfants, qui reviennent dans une vie sociale professionnelle. Donc comment vous accueillez les gens en fait, vous les conseillez, comment vous avez un parcours individualisé?
Alors, au cœur de l'activité de conseil, quel que soit le niveau des personnes, c'est le projet. Donc, on va travailler sur le projet professionnel de la personne et on va trouver, c'est à nous de trouver les outils qui vont bien et les moyens qui vont bien pour que ce projet puisse être mis en place le plus rapidement possible. On va mobiliser des outils comme la validation, on va mobiliser des outils, on va les renseigner sur le congé individuel de formation, sur les plans de formation, sur le droit individuel à la formation, enfin, sur l'ensemble des droits et des possibles, sur les possibilités pour les demandeurs d'emploi d'obtenir une rémunération soit par l'État, soit par la région, enfin, sur l'ensemble des dispositions légales qui leur permettent de venir dans des conditions normales à l'université et d'y réussir. Parce que si on ne prend pas en compte cette dimension-là, vous pensez bien que si vous ne pouvez pas manger à la fin du mois, vous abandonnez plus facilement. Donc c'est tout l'objet du service. C'est vraiment le projet de la personne au cœur. Et on essaye de bâtir ce projet de telle manière à ce qu'il soit réaliste et réalisable. Hein, c'est très, très important. On ne peut pas, à ce niveau-là, engager des gens dans des rêves. Hein. Il y a quand même des réalités économiques. Et on essaye de bâtir des projets qui puissent être révisables en cas de changement dans la vie d'un individu. C'est-à-dire qu'on peut perdre son emploi, donc on devient plus disponible au cours d'une formation. On peut aussi en retrouver un et devenir moins disponible. On peut aussi ne pas avoir mesuré l'impact sur sa vie familiale. C'est ne pas aller au cinéma éventuellement le samedi et faire ses devoirs à la place. Mmh. Enfin, il y a tout un tas de choses qui nous permettent de réviser ce plan. Et les enseignants de l'université qui ont en charge les adultes sont des gens qui veillent et qui essayent de remotiver dès que quelque chose ne se passe pas bien et réintègrent le service s'il fallait intervenir pour corriger le tir en cours de cursus. Voilà.
Alors, autrefois, on trouvait relativement facilement un travail avec un bac, voire un BTS ou un bac plus 3. Maintenant, la tendance est à la fuite en avant vers les études, mais souvent parce qu'on ne trouve pas encore de travail avec le niveau qui a été acté en termes de diplôme. Est-ce que ça continue? Quelles sont les limites de ce genre de système?
Il est sûr que l'élévation du niveau de qualification et du niveau, est important et existe et réelle. Et que l'activité qu'on avait il y a 20 ans n'est plus la même que celle qu'on a maintenant. Mmh. C'est-à-dire que même si on a encore des dispositifs pivots, hein, comme le DAE, qui est l'équivalent du bac pour adultes, ou les DUT, qui étaient à un moment donné là où il y avait beaucoup de monde qui venait en formation continue, maintenant avec l'augmentation des qualifications, la pression est plutôt sur les licences professionnelles et les masters. Mmh. Alors, parler de les problèmes d'insertion professionnelle des adultes, des gens qui ont déjà une activité professionnelle préalable, se posent pas tout à fait dans les mêmes termes que celle d'un étudiant, parce que ce sont des gens qui ont déjà un passé, qui peuvent valoriser, qui ont une expérience de l'entreprise, une expérience de l'administration, qui viennent démontrer qu'ils sont capables de progresser en venant acquérir un diplôme. Et donc je dirais que globalement le placement post-formation se passe plutôt bien et plutôt mieux que pour les étudiants. Il y a des secteurs plus ou moins bouchés, mais ça, le réalisme des gens qui viennent en formation continue et qui ont un vécu quelque part, fait que rares sont ceux qui s'engouffrent dans les voies où il n'y a pas de débouchés professionnels.
Quand on dit validation, il y a la validation des acquis. Vous pouvez nous faire un point sur ça?
Oui, alors la validation des acquis, il y a deux formes. Il y a un très vieux texte qui date de 1985 et qui permet à toute personne qui n'a pas le titre requis d'être admis dans un cycle de l'université. Alors si je n'ai pas le bac, j'ai une expérience professionnelle, j'ai été cadre dans une entreprise, je veux obtenir un master, je veux suivre les cours, donc on peut prononcer, au vu de l'importance de cette expérience, une validation, une autorisation d'inscription en master. Mmh. La deuxième forme, qui est beaucoup plus récente, qui date de 2002, c'est la validation des acquis de l'expérience, qui permet à toute personne qui a une expérience professionnelle ou personnelle, le bénévolat est validable, de demander à un certificateur, ce qu'on appelle un certificateur, c'est quelqu'un qui délivre une certification ou non, enfin inscrite au répertoire national de la certification professionnelle. Alors, ce sont les diplômes, mais ce sont aussi les titres du ministère chargé de l'emploi, par exemple, les titres de la jeunesse et sport, de l'agriculture. Enfin bon, il y en a énormément. Hein, de venir faire valider son expérience et d'obtenir tout ou partie de cette certification. C'est-à-dire, j'ai travaillé, je veux dire, comme chef de projet en informatique, je peux venir à l'université faire valider mon expérience et obtenir un master sur la base de la constitution d'un dossier et d'un entretien avec le jury.
Et c'est payant, ça ?
Alors, la validation des acquis, oui, est payante. Elle peut être prise en charge sur les fonds de la formation professionnelle, donc pour les salariés dans le cadre du plan de formation, pour les salariés de l'université par l'université, ou dans le cadre des congés individuels de formation. Elle est aussi DIFable, c'est-à-dire elle peut être prise en compte aussi dans le cadre du droit individuel à la formation. Et pour les demandeurs d'emploi, la CEDIC ou la région prend en charge les frais pour les demandeurs d'emploi. Donc, le montant à l'université de Lille est de 760 euros, plus les frais d'inscription à l'université. Mais rares sont ceux qui acquittent cette somme personnellement.
D'accord. Donc, on l'a bien compris, la formation continue, c'est à la fois une possibilité de développer une carrière, aussi de changer d'orientation, peut-être aussi d'être conforté dans le fait qu'on a progressé dans la vie.
Oui. D'ailleurs, la majorité des gens qui viennent en validation des acquis d'expérience viennent là pour obtenir une reconnaissance sociale de ce qu'ils ont fait de leur passé et de montrer que, quelque part, l'expérience qu'ils ont acquise avait un sens et a un sens d'autant plus qu'ils doivent se mettre au même niveau que les jeunes générations qui arrivent pour des emplois avec des diplômes pour les mêmes emplois. Certains même commandent des jeunes qui sont plus diplômés qu'eux, donc ça leur permet de remettre quelques pendules à l'heure et de valoriser tout ce qui a été fait au cours d'une carrière. Bon, ça peut être en milieu de carrière. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'avec l'accélération des technologies, et je m'adresse là à tous nos étudiants, c'est qu'il va falloir gérer sa carrière. La validation des acquis, c'est un outil de la gestion de carrière, mais qu'il faut surtout, même si on a un diplôme de haut niveau, saisir toutes les opportunités et qu'ils devront revenir nous voir à un moment donné pour acquérir des compléments technologiques sur des technologies pointues pendant tout au long de leur carrière professionnelle. C'est ce qu'on appelle la formation tout au long de la vie. Et je crois qu'elle a un sens et que l'accélération des technologies fait que tous nos étudiants actuellement doivent savoir que les portes de l'université leur seront ouvertes pendant toute leur carrière professionnelle et qu'ils pourront retrouver des choses pour se reconvertir, pour se former à tel et tel type de technologie pendant toute leur vie. Voilà.
Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers.
Tout à fait. Je pense que effectivement les cas les plus difficiles qu'on a traités, bon, c'est pas tous les cas, mais des cas difficiles qu'on a traités au niveau des demandeurs d'emploi, ce sont des gens qui ont quand même quelquefois ronronné ou pas su prendre ou pas pu prendre, parce que c'est pas aussi simple que ça, les virages qui allaient bien au bon moment.
Alors, c'est vrai qu'on peut être très vite dépassé par la technologie dans la mesure où on ne voit pas forcément arriver les progrès dans son domaine et par contre dans d'autres ils se développent très vite, et même l'idée de passerelle entre une carrière dans une profession et l'entrée dans une autre, parfois l'écart se creuse énormément.
Oui, c'est tout à fait vrai, et c'est pour ça que le cœur du contrat d'établissement de l'université, c'est la mise en place de la formation tout au long de la vie, c'est de pouvoir ouvrir tout type de choses à n'importe quel moment de la carrière professionnelle, pour quel moment du besoin. Et que le Sud-Est, actuellement, met en place un centre d'aide à la gestion de carrière professionnelle. On prépare aux entretiens professionnels, aux entretiens annuels d'évaluation, des choses qui permettent aussi à un moment donné de faire un point, de faire un recul. On est aussi centre de bilan de compétences. C'est aussi un des outils qui, à un moment donné, vous permet d'avoir une sorte d'audit de ce que vous êtes et vous permet d'analyser ce que vous avez fait, vers quoi vous voulez aller, et peut vous permettre d'avoir des pistes et de vous ouvrir les yeux. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont à la disposition des personnes qui travaillent, et c'est vraiment le cœur de l'activité de cette maison.
Alors, est-ce que vous travaillez aussi sur la mise en phase entre des diplômes français et des diplômes européens, voire internationaux ?
Les diplômes que l'on délivre en formation continue sont les mêmes que les étudiants. Donc à ce niveau-là, on travaille avec avec tout ce qui est diplôme de l'université. Mmh. Et donc le mouvement sur le LMD, je veux dire, on a regardé la partie formation continue. Les habilitations regardent la partie formation continue pour que les aménagements, pour que ces diplômes puissent être ouverts dans de bonnes conditions aux gens qui travaillent ou qui sont demandeurs d'emploi. Mais je veux dire, on s'inscrit dans le même mouvement européen. Il n'y a aucune différence que l'ensemble de l'université, sur l'ensemble des cursus qui sont offerts.
Est-ce que vous voyez beaucoup de gens arrivés à 30-40 ans qui veulent aller à l'étranger, qui ont des difficultés pour avoir des correspondances ou du moins pour faire reconnaître leurs capacités ?
Alors, ça, pas trop en formation continue, parce que en général, on a des gens qui ont une vie de famille, et donc c'est quand même un obstacle. Bon, il y a quand même des gens qui bougent et qui vont faire des stages à l'étranger ou qui viennent pour faire des choses à l'étranger, mais quand même les conditions familiales sont très importantes. Donc, vaut mieux bouger avant, hein, c'est plus facile que quand on est une femme et deux ou trois enfants. Voilà. Bon, ça n'empêche que c'est possible. Hein, exactement comme pour les étudiants, les mêmes choses sont ouvertes et les mêmes possibilités sont ouvertes.
Alors là, je voyais par exemple des gens à qui l'entreprise avait proposé de se délocaliser au Brésil. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de situation ?
Je ne vais pas vous dire, mais j'ai une obligation de réserve à ce niveau-là. D'accord. Je pense que la manière dont on réagit les gens est tout à fait parlante.
L'internationalisation, pour vous, est-elle un risque ou quelque chose qu'il faut aborder avec une certaine sérénité compte tenu de notre pays qui n'est pas plus mal formé que d'autres ?
Alors, si je regarde au niveau de la formation continue, les lois françaises sont très en avance sur les autres. Donc, on est vraiment un train d'avance au niveau des droits sociaux des personnes à la formation. On a aussi un train d'avance en matière de validation. Il n'y a que nous, actuellement, ou presque que nous. Il y en a d'autres qui commencent à nous suivre, qui peuvent décerner la totalité d'un diplôme par validation d'acquis de l'expérience. Et d'ailleurs, l'expérience française sert de modèle au niveau européen. Et l'université de Lille accompagne de nombreuses universités étrangères à la mise en œuvre de la validation partout en Europe. Il y a un gros réseau des universités en matière de formation continue qui s'appelle UCAN, où adhèrent plus de 200 établissements d'Europe. Le président de cette association est quelqu'un de l'université de Lille, qui est Michel Feutry. Donc on a beaucoup de contacts avec les autres. Alors, on s'inscrit, tout le monde s'inscrit ou tente à s'inscrire dans la mise en place de la formation tout au long de la vie. On échange, on travaille ensemble, on échange sur les pratiques, on échange aussi, on peut échanger sur les stagiaires, on peut échanger aussi sur les personnels des services ou des enseignants qui s'occupent de tel secteur. On s'inscrit vraiment dans ce mouvement-là. Il est clair qu'on prend aussi des virages, les mêmes qu'en formation initiale, puisqu'on est vraiment calqué sur les problèmes de certification en langue, certification en informatique, sont exactement les mêmes. On prépare les gens de la même manière, avec des outils aménagés, mais les mêmes outils et les mêmes droits que les étudiants.
Est-ce que la pratique de la langue est un frein, un problème entre les échanges universitaires ?
Entre nous, bon, on parle anglais, hein, ou du petit nègre, j'en sais rien, mais enfin, en tous les cas, de l'anglais bien aménagé, en tous les cas. Non, dans cette université, on en a beaucoup. Enfin, moi, je voyage beaucoup dans tous les pays européens. Ben non, on s'est fait un vocabulaire, à nous, et puis ça se
passe. En fait, ça n'a plus rien d'anglais, c'est un langage technique international.
Bon, il y a quand même un fond d'anglais, mais il y a quand même beaucoup de choses qui deviennent du vocabulaire, effectivement, un peu international.
Et un peu technique aussi.
Forcément, le vocabulaire de la formation continue est très particulier. Hein. On parle beaucoup par sigle, on a beaucoup de dispositifs, on a beaucoup de textes de loi, enfin, etc., etc. Donc, effectivement, on a des définitions particulières. Mais on se comprend tout à fait tous ensemble et on se voit. L'ensemble du réseau européen se réunit deux fois par an et il n'y a aucun souci. On travaille sur des projets communs. Autour de la formation tout au long de la vie, autour de la qualité, autour de la reconnaissance des compétences, autour de la reconnaissance des qualifications, puisque nous, on est ministère de l'enseignement supérieur, mmh. mais on est aussi très en lien avec la qualification et le ministère du Travail. Et donc, on est obligé aussi de regarder ce qui se passe du côté de l'Europe des qualifications et de la reconnaissance des qualifications au niveau des ministères mmh. du Travail de l'ensemble des pays de la communauté.
Alors, la formation continue, donc il y a le public des gens formés et il y a le public des formateurs. Et est-ce que dans ces formateurs, ce sont des missions particulières de personnel, je veux dire, banalisées, ou ce sont des métiers spécifiques avec des formations spécifiques, voire des diplômes spécifiques?
En ce qui concerne par exemple les activités particulières qu'on a au niveau du QEP, là il y a des formateurs qui ont une formation particulière, mmh. spécifique, avec de la formation de formateurs, et d'ailleurs c'est un des créneaux importants où on délivre des diplômes dans ce secteur-là. On a le DUFAL, le diplôme universitaire de formateur d'adultes, la licence et la maîtrise sciences de l'éducation, on avait une licence professionnelle sur les métiers du conseil, un IUP qui a été transformé maintenant, et un master recherche et un master professionnels dans ce secteur. Donc ce sont des gens issus de là, ou d'une discipline avec une compétence particulière en formation de formateur. Sinon, en ce qui concerne les autres activités universitaires hein, et les diplômes, ce sont les enseignants de l'université qui, mmh. bien évidemment, ont une pratique importante de la formation d'adultes et de ce public-là, mais ce sont les mêmes enseignants que ceux que rencontrent les étudiants.
Alors pour conclure, un vœu peut-être pour les années futures?
Que ça continue et que ça s'amplifie. Hein. Je dirais que je pense que la formation continue, c'est quelque chose d'avenir pour l'université. C'est aussi, mais l'université de Lille l'a tout à fait compris, c'est aussi un des liens forts de notre établissement avec le monde économique. Et il faut conforter tout ça et faire en sorte que on reste au moins aussi fort que ce qu'on est maintenant et que nos portes soient ouvertes au plus grand nombre dans les meilleures conditions possibles.
Madame Karen, je vous remercie.
Thank you.